Alléluia. Je voudrais lire avec vous deux textes de la parole de Dieu. Le premier se trouve dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 14. Vous allez vous apercevoir que déjà beaucoup de choses ont été dites au travers de ce chant, de ces chants, de ces temps de louange. Mais Matthieu, au chapitre 14 et le verset 22, nous dit ceci. C'est un texte que je pense plusieurs connaissent. Nous nous situons juste après la multiplication des pains. Et il nous est dit ceci. Aussitôt après, il, c'est-à-dire Jésus, obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la foule pour prier sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Il dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et ils dirent « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Les gens de ce lieu ayant reconnu Jésus envoyèrent des messagers dans tous les environs et on lui amena tous les malades. Et ils le prièrent de leur permettre seulement de toucher le bord de son vêtement. Et tous ceux qui le touchèrent furent guéris. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà un texte que vous connaissez bien. Jésus qui renvoie les disciples. La réunion est terminée. Il y a eu des bénédictions avec toute cette foule voilà, qui s'est rassemblée. Plus de 5000 personnes. On a compté que les hommes, mais certainement il y avait... pour plusieurs, leur épouse, leurs enfants. Et puis, le Seigneur a fait cette multiplication des pains. C'est extraordinaire. Alléluia. Et puis, la réunion se termine. C'est bien quand une réunion se commence, mais c'est bien aussi quand elle se termine. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Voilà. Et donc, il renvoie la foule, mais ils sont rassasiés. Ils sont heureux d'avoir passé cette journée sous le regard de Jésus. Alléluia. Et puis, il renvoie aussi les disciples. Il demande de les précéder en prenant la barque et en allant de l'autre bord. Et puis, pendant la traversée, vous avez lu la tempête, la peur. Et puis, durant cette tempête, Jésus qui vient à eux, marchant sur l'eau. Et là, ça nous fait sourire, mais bon, on n'est pas à leur place là. Mais ils prennent le Seigneur pour un fantôme. Et là, c'est panique à bord. Et quelle erreur, quelle méprise. Ils ne reconnaissent pas le Seigneur Jésus. Finalement, le Seigneur leur dit qu'il est, c'est moi, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Il communique même la victoire à l'un des disciples, l'apôtre Pierre, qui se met à marcher sur l'eau. Vous avez vu, il a bu quand même une tasse, mais le Seigneur ne lui a pas laissé l'occasion de toucher le fond du lac. Et puis, voilà, tout le monde réalise la puissance, l'autorité du Seigneur Jésus. Et la remarque qu'on peut se faire, c'est comment se fait-il que ces hommes qui étaient habitués, qui étaient habitués à la présence du Seigneur, qu'ils connaissaient le Seigneur, ne l'ont pas reconnu, alors même qu'ils traversaient une épreuve. Si vous lisez attentivement le chapitre 14 de l'Évangile selon Matthieu, le mot-clé, c'est reconnaître. C'est reconnaître. Le chapitre 14 commence par Hérode, non pas Hérode, celui qui était à la naissance de Jésus, mais un autre roi qui portait le même nom, mais voilà, qui Hérode le tétrarque. Et la Bible nous dit, il entend parler de Jésus, mais au lieu de dire que c'est Jésus, lui, il dit c'est Jean-Baptiste. Il est poursuivi par son passé. Il a tué Jean-Baptiste, le prophète, et il a tué dans son cœur l'autorité de la parole de Dieu. Et bien, quand on tue l'autorité des Écritures, et bien, on ne reconnaît plus le Seigneur. Il y a quelque chose de c'est terrible. Et puis, il y a la foule qui, elle, a reconnu Jésus dans le désert. Elle s'est attendue un cœur intègre dans le désert. Ils ont quitté leur foyer, ils ont quitté leur travail pour trouver celui qui est le pain de vie, qui est capable de donner la vie là où il y a la mort. Alléluia, c'est Jésus, alléluia. Et puis, En fin de lecture, vous avez vu que dans le pays de Génézareth, les gens ayant entendu parler de Jésus le reconnaissent. Ils le reconnaissent, touchent le bord de son vêtement, placent leur foi et ils sont guéris. Et là, nous voyons ces hommes, ces disciples, qui, tandis qu'ils sont dans la tempête, ne reconnaissent pas le secours du Seigneur qui vient à eux. Et au lieu d'être heureux, de glorifier le Seigneur, de bénir Dieu pour le secours qu'il est en train d'apporter, la Bible nous dit que leur frayeur va s'amplifier encore davantage. Et je me suis posé la question quand même, Seigneur, c'est étonnant de voir ça, mais je me suis arrêté sur cette réflexion. C'est vrai néanmoins que l'épreuve, les circonstances difficiles, ça nous est tous arrivé, altèrent notre foi. Et parfois, on se retrouve dans des situations où même si on connaît le Seigneur de tout son cœur, si on aime Jésus de toute son âme, le moment où on se dit, Seigneur, j'y comprends plus rien. J'y comprends plus rien. Seigneur, éclaire-moi. Donne-moi de la lumière. Alors, je voudrais vous dire une chose maintenant. Tout à l'heure, je vous donne des détails des coulisses, vous voulez ? Ce matin, à 8h30, je crois, j'envoie un texto à David et je lui dis, David, c'est pas trop tard, mais est-ce que tu pourrais, pas trop tard pour toi, tu pourrais préparer un texte pour la Sainte-Seine ? Alors il m'a dit oui, gloire à Dieu. Il ne savait pas du tout sur quoi j'allais prêcher. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire ? Et il vous a lu tout à l'heure, il nous a lu un texte dans Éphésiens au chapitre 1er. Et moi, c'est préparé depuis hier, hein. C'est ce texte-là que je voulais lire. Alléluia. Alors on va le lire. Et dans la pensée de dire, je suis dans la nuit, mais Seigneur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends même plus ta parole. Je ne sais même plus comment comprendre les choses, les événements. J'ai besoin que tu m'éclaires. Et voici la prière de l'apôtre Paul pour les gens de la ville d'Éphèse pour les chrétiens. Et voici, on le lit, on le relit. Vous êtes d'accord ? Ça nous encourage quand même, hein, de voir que le Saint-Esprit agit. Amen. Éphésiens chapitre 1er et le verset 15, il nous est dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour, votre charité, pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. » Alors il prie. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur, qui vous permette de comprendre. Comprenez les yeux de notre cœur. Avec mes yeux physiques, je vois les dangers qui sont, je comprends, je sais où je peux mettre le pied, où je ne dois pas le mettre, etc. Mais avec les yeux de mon cœur, le Seigneur m'éclaire, me donne une intelligence renouvelée, alléluia, et je comprends aussi les événements, alléluia, amen. Donc il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Donc, il y a plusieurs choses. Et cette force, cette puissance, eh bien, Dieu l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. Alléluia. Mais c'est glorieux. Amen. Celui qui est le vainqueur, on a chanté tout à l'heure que le Seigneur met à terre nos ennemis, je ne me souviens plus exactement des paroles, mais nous le retrouvons ici, Jésus, eh bien c'est celui qui est assis à la droite de la majesté divine, c'est celui qui a tous ses ennemis sous ses pieds et il règne sur l'Église. Nous sommes le peuple de Dieu, alléluia. Et c'est pour cela qu'on a le droit de se réjouir, c'est pour cela qu'on a même le devoir de se réjouir et de dire, Seigneur, je ne veux pas retenir ma louange, mon adoration, j'étais perdu, maintenant je suis sauvé, alléluia, amen. Et non seulement pour cette terre, mais aussi pour l'éternité. Alors, on revient à nos disciples qui sont dans la barque, il fait nuit, ils ont besoin qu'on les éclaire, et le Seigneur vient, et il va les éclairer. Et nous aussi, peut-être certains d'entre nous ont besoin d'être éclairés particulièrement dans les combats qu'ils traversent. C'est pas parce que c'est Noël, c'est pas parce que c'est une période festive, et bien que les problèmes sont arrêtés comme ça, d'un coup de baguette magique d'ailleurs, ça n'existe pas. Voilà. Mais on a besoin de connaître la puissance de Christ, de connaître l'espérance que nous avons en Christ, de connaître aussi l'appel que Dieu nous fait, parce que Jésus a appelé au cœur de la tempête. Eh bien, cet homme, Pierre, a vécu une victoire personnelle extraordinaire. Alléluia. Et on va voir ce que ça veut dire. Marcher sur l'eau, je ne vous invite pas à le faire d'une manière physique, mais quoique le miracle ait eu lieu, mais il y a un sens spirituel à tout cela et puis, que le Seigneur veut nous voir partager et puis connaître l'héritage des enfants de Dieu, ce que nous avons en Christ. Alors tout d'abord, connaître Christ, connaître la puissance de Christ. De toute façon, mes frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, notre Dieu, il est grand. Alléluia. Il dépasse tout ce que nous pouvons penser, imaginer. La Bible nous dit qu'on ne peut sonder son intelligence. Alléluia. Et lorsque on sonde la création, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je prends par exemple un passage dans le livre de Job où c'est Élihu qui dit au chapitre 36 et au verset 26 concernant Dieu, il dit ceci: Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années sont impénétrables. Il attire à lui toutes les gouttes d'eau. Il est réduit en vapeur sous la forme de pluie. Bon, il parle de... Bon, c'est tout, ça nous dépasse. Alléluia. Notre Dieu est grand et sa grandeur, elle nous échappe. Tout à l'heure, je parlais avec Vincent un petit peu de l'univers. Il aime aussi regarder les étoiles. C'est magnifique l'univers, mais c'est insondable. C'est ça, ça nous dépasse. Et on se dit, et dire que tout ça, à un moment, ça n'existait pas. Les scientifiques, à l'heure actuelle, s'accordent tous pour dire l'univers tel que nous le voyons, à un moment, il n'existait pas. Et puis, par un phénomène qu'on appelle le Big Bang, mais auquel on ne donne aucune explication, simplement dit, c'est arrivé, eh bien, cet univers s'est mis à exister jusqu'à nous aujourd'hui. Ce sont des choses qui nous échappent, voyez. Dieu est grand, et lorsqu'on lit la parole de Dieu, mais on voit un Dieu qui est grand dans son amour, alléluia. Parce que dire que Dieu est grand, voilà les étoiles, c'est extraordinaire, ouais, c'est merveilleux là, je suis avec les étoiles, voilà. À quoi ça servirait s'il ne s'intéressait pas à moi? Mais il s'intéresse à ma vie. Il est le Dieu qui pardonne. Il est grand. Il est grand dans sa sagesse, parce que il est celui qui m'instruit. Il se met à ma portée. Il est grand dans sa puissance. Et nous l'avons vu, il a tout créé. Et cependant, c'est ça qui est étonnant. Tandis que nous savons que Dieu est grand, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu fait homme. Alléluia. Qu'il nous a rachetés, lorsque nous voyons les disciples considérer Jésus marchant sur l'eau, ils expriment toute leur ignorance en disant quelque chose qui nous surprend. Enfin, c'est un fantôme. Ça ne vous fait pas sourire un petit peu, ça? Voilà. Alors peut-être qu'on n'est pas à leur place, mais on sent quand même qu'il y a un arrière-plan culturel. C'est pas divin quand même, Les fantômes, on ne vous lit pas ça dans la Bible, C'est plutôt la croyance populaire, etc. Et là, tout se mélange. Ils perdent, le sens des choses. Ils ne comprennent pas. Ceci indique une méconnaissance terrible de la personne du Seigneur. Et ils disent, c'est un fantôme. Et c'est ainsi que nous revenons sur ce texte. Mais Paul prie pour que le Seigneur illumine les yeux de notre cœur. Alléluia. Que Jésus vienne à toi pour te sauver, pour manifester l'infinie grandeur de sa puissance qui était déployée en lui, pour te sauver, cela ne devrait pas te surprendre. Et chers frères, chères sœurs, nous voulons être de ceux et celles qui connaissent l'autorité de Jésus, qui connaissent la victoire de Jésus. Alléluia. Parce que marcher sur l'eau, ça veut dire que le Seigneur, eh bien, marche sur les problèmes. Il marche sur un monde déchaîné, levé par des vents violents de rébellion contre Dieu. Et nous sommes dans un monde comme ça. Vous savez, quand il y a une foule qui se soulève, dans la semaine, ici à la Paillade, on a eu une réunion. Le Maroc a gagné. Vous êtes au courant de ça ? J'ai un voisin, il est marocain. Et le lendemain de la victoire, je lui ai dit, ça va au niveau foot ? Ouais, le Maroc a gagné. Ah bon ? J'ai rien entendu. Il me dit, quoi, c'est pas vrai ? Vous avez pas entendu ? Si. Voilà, pour une fois, j'ai réussi à le faire marcher. Hein. Mais des foules humaines, des marées comme ça. Alors, quand c'est comme ça, c'est beau. Quand c'est des marées humaines, enfin, c'est beau. Pour ceux qui aiment. Voilà, on célèbre une victoire du foot, etc. C'est pacifique, disons. C'est pacifique. Mais quand on lit dans les Écritures et on voit dans certains pays et dans le cours de l'histoire qu'il y a des foules entières qui déchaînent leur haine et leur violence parce qu'ils cherchent des chrétiens, encore à l'heure actuelle, en Inde. Et peut-être, ce n'est pas une foule déchaînée, mais c'est une ambiance familiale compliquée. C'est des critiques. Ce sont des choses, voilà, même au travail, c'est compliqué. Mais je voudrais te dire, n'aie pas peur, parce que ton Seigneur, c'est celui qui marche sur l'eau. Alléluia. C'est celui qui marche sur la puissance des ténèbres. C'est celui, eh bien, qui a toute autorité sur tous les pouvoirs, sur tous les principes, eh bien, de ce monde. Alléluia. Et nous avons besoin de revenir à une révélation grandiose de Jésus-Christ. La Bible nous dit, mais si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui ne fait de reproches à personne. Il sait de quoi nous sommes formés. Mais demande-la au Seigneur. Alléluia. Il dit, lui, tandis que tu traverses cette épreuve, mais Seigneur, fais-moi comprendre, fais-moi réaliser tout à nouveau, eh bien que toi, tu as autorité sur ces choses-là. Tu as autorité sur ce diagnostic. Tu as autorité sur cette mauvaise parole que j'ai entendue, ce projet. Tu as autorité, Seigneur. C'est toi qui règnes. Alléluia. Et je voudrais vous dire, dans l'Écriture, nous voyons des hommes et des femmes de Dieu à qui Dieu a répondu. Il connaît notre cœur. Vous savez que 365 fois dans l'Écriture, il est écrit « N'aie pas peur, ne craignez point ». Ça veut dire que le Seigneur connaît notre cœur. Alléluia. Et lorsque je préparais ces moments, je me suis souvenu de l'apôtre Paul qui, à plusieurs reprises, c'est l'apôtre Paul, c'est celui qui a vu Jésus, mais à plusieurs reprises, se trouvant dans des situations compliquées dans l'exercice de son ministère, avec la persécution, avec les doutes, les conflits intérieurs, avec le découragement, mais à plusieurs reprises, le Seigneur s'est révélé à lui. Comme il le connaissait, mais il avait besoin d'être renouvelé dans sa foi, d'être animé par le Saint-Esprit. Mais n'aie pas peur, Paul, je suis avec toi. Alléluia. Par exemple, dans le livre des Actes, au chapitre 18 et au verset 9, tandis que Paul se trouve à Corinthe et qu'il y a encore un vent de persécution qui est en train de souffler, Paul reçoit cette vision de Jésus, Actes 18, verset 9, qui lui dit « Ne crains point, mais parle et ne te tais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Il avait besoin, le grand apôtre Paul, d'entendre de la bouche de Jésus, mais il le savait, le psaume 34, il le savait, il le connaissait. Voilà, que quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le délivre de toutes ses détresses. Il y a des choses que tu sais. Mais comment c'est bon quand le Saint-Esprit, quand c'est le Seigneur qui te le redit lui-même. Alléluia, amen. Personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Alléluia. Je suis celui qui domine sur toute chose. Alléluia. Je passe Actes 23, 11 parce que à nouveau, eh bien, le Seigneur parlera encore à Paul. Je voudrais lire encore avec vous un psaume. C'est le psaume 94, enfin, le verset d'un psaume, peut-être pour un frère, pour une sœur qui sait toutes ces choses. Mais vous savez, l'Écriture, c'est bien, elle décrit vraiment d'une manière tout à fait juste l'âme humaine, ce qui se passe dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Et dans le psaume 94 et au verset 18, il est dit ceci, « Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, que j'en arrive à ne plus savoir qu'est-ce que ça veut dire penser normalement. » Il nous est dit ici, « Tes consolations réjouissent mon âme. » Alléluia. Amen. Tes consolations, le consolateur, t'es pas seul. Je suis avec toi. Seigneur, je n'y comprends rien. Je ne sais même plus comment il faut faire. Mais Seigneur, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, quand je dis, mais mon pied chancelle, par contre, il y a quelqu'un qui ne chancelle pas, ta bonté me sert d'appui, Seigneur. Amen. Alléluia. Et ce matin, eh bien, que nous puissions repasser dans notre cœur, eh bien, la grandeur de la victoire de Jésus, connaître, eh bien, la puissance du Seigneur, connaître Jésus. Vous avez remarqué qu'à la fin de cette expérience que les disciples vont faire avec le Seigneur, ils vont confesser, mais tu es véritablement le Fils de Dieu. Peut-être qu'ils avaient besoin de ça pour grandir spirituellement. Ils avaient besoin de passer pour cette épreuve pour que leur foi soit affermie et qu'ils puissent dire, mais Seigneur, plus jamais je vais m'appuyer sur mes capacités. Plus jamais je vais faire passer mes projets avant les tiens. Seigneur, c'est toi le Fils de Dieu. C'est toi qui règnes. Alléluia. Amen. Deuxième point, connaître l'espérance qu'il donne. Tout à l'heure, nous l'avons lu, David aussi, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous connaissiez l'espérance qui s'attache à son appel. Alors, l'espérance, qu'est-ce que c'est ? L'espérance, eh bien, c'est l'avenir que Dieu donne. Moi j'ai l'habitude de le dire, l'espoir, ça vient de la terre et l'espérance, ça vient du ciel. L'espoir, ça vient des hommes, l'espoir fait vivre, disons, ouais. Il y a des espoirs déçus. L'espoir, c'est l'avenir que les hommes donnent aux hommes. Voilà, il y a des bonnes choses, mais bien souvent, c'est compromis. Par contre, l'espérance, elle vient du ciel et elle est pour le ciel. Alléluia. Et c'est là où le Seigneur te donne un avenir. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5 et au verset 3, l'apôtre Paul dit, nous nous glorifions, c'est-à-dire, mais voilà, on est heureux même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire. Vous avez la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Vous avez remarqué que, mes frères et sœurs, quand l'apôtre Paul rencontre l'affliction, ça produit en lui quelque chose. C'est pas parce que je suis affligé que je vais m'arrêter. Je vais persévérer. Et si je persévère, je vais avoir la victoire. C'est normal. Parce que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous ? Il faut combattre. Donc, affliction, persévérance, victoire. Et victoire, espérance. Seigneur, ça me renforce. Chaque victoire me rend plus fort. Alléluia. Et affermi dans l'espérance que tu me donnes, dans l'avenir qu'il a. Et l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alléluia. Bien sûr, il y a cette espérance glorieuse consiste à savoir que nous avons une espérance vivante. Notre nom est inscrit dans le livre de vie. Nous allons au ciel. Alléluia. Mais l'avenir que Dieu nous donne, il commence dès ici-bas. Et vous avez remarqué qu'au verset 22 de Matthieu 14, c'est Jésus qui ordonne à ses disciples d'aller de l'autre côté, c'est-à-dire vous allez réussir votre voyage. Enfin, quand le Seigneur dit quelque chose, ça s'accomplit. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui ou non ? Dieu dit et la chose arrive. Dans une autre tempête, la première que les disciples vont passer, le Seigneur les fait passer par de drôles de tempêtes quand même. Le Seigneur dort, il leur dit « Passons de l'autre bord ». Seigneur, tu t'inquiètes pas, nous périssons. Vous vous souvenez, hein ? Voilà, j'ai pas besoin de... Voilà, et puis le Seigneur se lève. Silence, tais-toi. Il calme la tempête et il leur dit « Mais enfin, elle est où votre foi ?» Oh, qui c'est celui-là ? Il calme même la tempête. Mais il voudrait leur dire « C'est pas parce que ça souffle au dehors ou que ça s'inquiète au dedans que ça remet en question ma parole. C'est ma parole qui va s'accomplir. » C'est-à-dire que ce n'est pas les tempêtes que tu peux rencontrer, les oppositions, les mauvais propos ou les épreuves qui vont empêcher ma parole de s'accomplir. Et vous avez remarqué qu'instinctivement, eux, quand ils voient le Seigneur Jésus, c'est un fantôme, allez, on va dire, il y a un monstre qui nous attaque. Ils ont vu trop de films. Hein. Voilà. On va y revenir tout à l'heure, mais je le dis tout de suite. C'est vrai que le Seigneur leur a dit, moi ça m'a toujours surpris, ça ne vous a jamais surpris, le Seigneur qui est toujours avec ses disciples, qui fait attention d'être toujours avec eux, mais H24, dans cette fois, et cette fois-ci, il leur dit d'y aller et ils y vont tout seuls. Et eux, ils le font, le Seigneur leur a dit. Mais ça ne vous fait pas réfléchir à quelque chose quand même ? Dites-moi, si vous avez un projet, même un projet qui vient de Dieu, vous savez, allez, je parle au jeune homme, à la jeune fille, tu sais que voilà, tu as les yeux qui brillent devant cette jeune fille, elle est tellement belle. Ou toi, la jeune fille, il est tellement beau, voilà. Et Seigneur, est-ce que c'est ta volonté ? Et au bout d'un certain temps, tu comprends que oui, c'est la volonté du Seigneur. Ah, mais j'y vais. Mais dites-moi, dans votre projet, vous prenez le Seigneur avec vous ou vous le laissez à terre ? Et non, le mariage, ça se construit avec le Seigneur. Amen, oui ou non ? Gloire à Dieu. Et là, je suis surpris. Parce que le Seigneur les envoie et ça ne se passe pas bien. Mais même si c'est un ordre du Seigneur, ils partent sans Jésus. Et je m'aperçois que dans l'Écriture, il y a eu des hommes et des femmes qui ont eu une autre mentalité que ça. Je repassais Exode 33:15. Voilà, quand Moïse est chargé de conduire le peuple dans le désert, il dit « Mais si tu ne viens pas avec nous, moi je ne pars pas. Si tu ne viens pas, moi je ne pars pas. Sans toi, ce n'est pas possible. » Jacob, je ne te laisserai pas partir que tu m'aies béni. Moi, j'ai besoin de toi dans ma vie. Les disciples d'Emmaüs qui marchent avec Jésus, ils retiennent le Seigneur en disant « Mais reste avec nous !» Jésus parut vouloir aller plus loin. Il a des intentions, il veut aller plus loin. Mais non, vous ne croyez pas que si les disciples disent « Non, Seigneur, nous, avec tout ce que tu es, mais on veut bien traverser la mer, mais pas sans toi. » Et néanmoins, eh bien, ils vont partir sans le Seigneur et ils vont être troublés. Et peut-être qu'il y a, eh bien, au milieu de nous, un frère, une sœur qui ne comprend pas le trouble qu'il a. Pourtant, tu as obéi au Seigneur. Pourtant, tu as compris que c'était le plan de Dieu. Oui, mais tu as oublié de faire du Seigneur toujours ta priorité. C'est comme si le projet que Dieu t'avait donné avait remplacé la place du Seigneur dans ta vie. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jésus doit rester le haut contrôle. Alléluia, et le maître. Et s'il n'est pas le capitaine de ta vie, même si le projet vient de Dieu, ce projet n'aboutira pas parce que c'est lui le chef. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, j'avance encore en disant, voilà, en revenant sur cette notion d'espérance que Dieu nous donne un avenir. C'est un fantôme, voilà, ça s'arrête, voilà, une idée superstitieuse, bon bref. Et tout cela provient d'une méconnaissance, eh bien, de la personne de Jésus qui est la résurrection et la vie. Mardi dernier, nous étions ici en réunion de prière et nous avons médité sur l'Épître aux Philippiens au chapitre 3. Nous avons parlé, eh bien, de Paul qui est comme un coureur qui regarde vers l'avenir. Et dans Philippiens au chapitre 3, au verset 13, il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu qui est en Jésus-Christ. » Et si vous vous souvenez bien, la situation de l'apôtre Paul, c'est quoi ? Il est en prison. Et je suis persuadé que quand il dit « Oubliant ce qui est en arrière », il ne parle pas comme quelqu'un qui vient de rencontrer le Seigneur avec un passé rempli de péchés. Il ne parle pas de ça. Lui, ce qu'il dit, je suis en prison. Mon passé, depuis que je connais le Seigneur, c'est la Pentecôte, c'est le baptême de l'Esprit, c'est des vies changées, des vies transformées. Un ministère, c'est vrai qu'il rencontre de l'opposition, mais où il y a la victoire de Dieu dans ma vie. Et il aurait pu se dire, excusez-moi, je parle familièrement, j'ai mangé mon pain blanc. Voilà, le meilleur en réalité, c'était derrière moi. J'ai vécu les meilleures années de ma vie. Maintenant, je suis en prison. Mais ce n'est pas ça quand on est en Jésus-Christ. Alléluia. Et je voudrais dire peut-être aux frères et à la sœur qui, malgré sa foi, se retrouvent dans un temps de maladie, peut-être d'isolement, de solitude, en train de te dire, mais les meilleures années sont derrière moi. C'est faux. Le meilleur est devant avec Jésus. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu de l'espérance. Il est le Dieu qui donne un avenir. Alléluia. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but, le meilleur. Merci Seigneur. Vous savez, vous êtes tous des supporters de l'équipe de France. Enfin, quand même. Vous êtes pour la France. Hein, voilà. Hein. Bon, même si vous n'aimez pas le foot, vous êtes pour la France. Voilà. Hein. Bon, merci. Enfin, je vais dire merci Seigneur, n'importe quoi. Le Seigneur, il n'est pas pour une équipe. Hein. Il n'est pas pour une équipe. Hein. Bon, bah, l'équipe, là, ils ont gagné plusieurs matchs. Hier, c'était qui ? C'était... Qui ça ? Pays-Bas ? J'ai oublié. L'Angleterre, pardon. Ah, vous suivez, hein ? Hein, voilà, hein, vous suivez. Bah, il faut oublier ça. Tant mieux, hein ? Mais le but, c'est plus tard. Hein, c'est dans quelques jours. Et encore deux matchs et on y va. Voilà, et c'est ça. Il y a encore un avenir, il y a une espérance. Et je voudrais te dire, mais nourris ta foi de Jésus, de celui qui est la résurrection et la vie. Alléluia. Ne dis pas c'est mort, parce que Jésus, il est vivant. Il ne dit pas je suis le chemin, la vérité et la mort. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et la vie éternelle est en lui. Amen. Alors on a besoin de l'entendre, connaître eh bien, son espérance, connaître son appel, parce que, bien sûr, l'espérance s'attache à l'appel. L'appel et l'espérance, nous sommes appelés pour un avenir glorieux. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la vérité et rencontrent Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Alléluia. Et cet appel, il s'adresse à tout le monde. Mais vous avez remarqué que néanmoins, dans ce texte et dans ce passage, le Seigneur Jésus s'adresse à l'apôtre Pierre d'une manière personnelle. L'apôtre Pierre, il réfléchit quand même. Il est là, il dit, mais enfin, Jésus est en train de nous enseigner. Même dans la tempête, il les enseigne. Il leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Il leur parle eh bien, de ce qu'il est. Il parle à leur cœur, rassurez-vous, reprenez courage. Je suis là, maintenant, je ne vous ai jamais abandonné. N'ayez pas peur. Et il signe, eh bien, l'apôtre Pierre est en train de réfléchir, mais si c'est Jésus qui est en train de me parler, mais alors, si c'est lui, mais pourquoi j'ai peur ? Pourquoi mes idées se troublent ? Mais moi aussi, je peux vivre la victoire. Parce que si Dieu est venu du ciel sur la terre, c'est pour me rendre vainqueur sur mes ennemis. On l'a chanté. Jésus, si tu es venu pour marcher sur toute la puissance des ténèbres, pour nous rendre vainqueurs du péché en nous pardonnant de nos iniquités, mais c'est parce que tu veux que moi aussi je marche en vainqueur. Alléluia. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais rester dans ma barque, dans mes petits raisonnements, ou alors est-ce que je veux en voir davantage avec toi ? Est-ce que je veux voir ta gloire, Seigneur ? Ouais, mais t'as pas peur quand même ? En préparant ces moments, je me suis souvenu dans Jean 18, verset 8, Jésus dira à deux reprises dans l'évangile de Jean, « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donné. » Le Seigneur n'a perdu aucun des siens. Et ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Et si c'est toi, Seigneur, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Réponse de Jésus, l'appel du Seigneur. Viens. Et l'apôtre Pierre, c'est là que quand même, vous savez, on critique souvent l'apôtre Pierre, il nous sert, hein, l'apôtre Pierre, hein, dans des prédications. Hein. Peut-être qu'on le verra, l'apôtre Pierre, dans le ciel, il disait « Heureusement que j'étais là quand même, hein, parce que... » Voilà. Hein. Bon, mais quand même, il faut avouer qu'il n'y en a qu'un seul, hein, qui a mis le pied sur l'eau et qui s'est mis à avancer eh bien, à la rencontre du Seigneur. Mais je voudrais vous dire ceci, c'est l'appel de Dieu, ça. Parfois, on se dit, mais comment des frères et des sœurs qui sont persécutés peuvent affronter toutes ces épreuves ? Et certains d'entre vous passaient par des épreuves. Mais l'appel de Dieu, il nous qualifie. Quand Dieu appelle, on avait l'habitude, quand Dieu appelle, il donne aussi la pioche, il donne les capacités. Quand Dieu appelle, il transforme. Quand Dieu appelle, il donne une espérance. Quand Dieu appelle, mais il t'entoure de sa grâce et il te demande une seule chose. Eh bien, c'est d'obéir à cet appel. Ne te demande pas comment il est capable de le faire. Ça, c'est son affaire. Comment, Seigneur, tu es capable, eh bien, de gérer, eh bien, les situations, les circonstances de ma vie. Hier, on a entendu des témoignages avec les jeunes. Ce qu'on a. On a eu une soirée vidéo, témoignage, et on a vu des footballeurs chrétiens, et notamment un Ivoirien, je ne me souviens plus de son nom. Et ce garçon s'est converti avec son épouse, et à partir du moment où il s'est converti, il est passé des ténèbres à la lumière, il a accepté Jésus, il a été rejeté de l'équipe. Pourquoi ? Parce que dans son équipe, avant tous les matchs, il y avait des rituels, on faisait des sacrifices, des pratiques occultes. Et lui, en tant que chrétien, il a dit, mais moi, je ne fais plus ça. Le sorcier donnait un truc, une espèce de produit, il devait se doucher avant le match avec ça, etc. Mais moi, je ne veux plus être sous l'emprise des ténèbres. Maintenant, je sers Jésus. Ah oui, tu sers le Seigneur, tu restes sur le banc. Et puis un jour, il y a un coup de téléphone qui vient de France, un entraîneur d'une ville qui dit ceci à l'entraîneur de l'équipe en question. Dis-moi, il n'y a pas un jeune là, un joueur que... écoute, oui, j'ai un joueur là, mais il ne joue pas depuis des mois et des mois. C'est celui-là que je veux. Quoi ? Mais tu ne l'as pas vu. C'est lui que je veux. Et écoutez, lui qui était un petit peu mis dans le placard, le Seigneur a ouvert la porte, alléluia. Il a quitté son équipe, il est venu en France pour jouer. Mais il a dit, mais gloire au Seigneur, alléluia. C'est pas le foot. C'est pour lui, c'est à un certain niveau, ça devient un travail comme un autre. Il faut être en forme physiquement, il faut vraiment assurer. Mais voilà, mais il a vu la gloire de Dieu dans sa vie. Alléluia, amen. Il te donne une espérance, amen. Et il te donne même de marcher sur l'eau. N'aie pas peur de la tempête, parce que quand le Seigneur agit dans nos vies, il est celui qui prend soin de nos vies. Dans le psaume 34, on l'a lu, on l'a chanté tout à l'heure. Oui, c'est vrai, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Gloire à Dieu. Et puis je termine en disant que il faut connaître l'héritage aussi, l'héritage des enfants de Dieu. Alors vous allez me dire, ouais, l'héritage des enfants de Dieu, c'est la part qu'on aura dans le ciel. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre héritage aussi que le Seigneur nous donne dès ici-bas sur la terre. Et j'ai trouvé dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 54 et au verset 17, Ésaïe chapitre 54 et le verset 17, il nous est dit ceci, même verset 16. Verset 14. Eh non, mais c'est important de savoir, de connaître ces choses-là. Vous allez voir, mais je vous fais sourire, c'est bien. Comme ça, le message passe plus facilement. Mais c'est important, ça, de le savoir, mes frères et sœurs. Regardez au verset, 54, verset 14. Alors, tu seras affermi par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Si l'on forme des complots, il y a des gens qui peuvent s'unir entre eux pour faire tomber un enfant de Dieu. Cela ne viendra pas de moi. Le Seigneur n'est pas dans les complots. Le Seigneur, il agit en pleine lumière. Et s'il veut te reprendre et te dire quelque chose, il te le fera les yeux dans les yeux et avec amour. Donc, quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Mais c'est bon, ça. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Et regardez, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Alléluia. J'ajoute une chose. Paul parle de l'héritage des saints. C'est-à-dire que cet héritage-là, il est associé à la sanctification. Seigneur, bénis-moi, donne-moi de l'argent parce que j'ai besoin de m'acheter une Ferrari. C'est pas sanctifié, ça. Qu'est-ce que c'est la sanctification ? C'est de regarder à Jésus. C'est de nourrir sa foi de la personne du Seigneur, de ce que Jésus aime. Et vous avez remarqué qu'à un moment, le regard de Pierre, il n'était plus uniquement centré sur Jésus. Pour des raisons qu'on comprend, parce que la fureur de la vague, mais ce n'était plus Jésus qui nourrissait. Et c'est là qu'il a commencé à chuter. Mes frères et sœurs, l'héritage, la victoire sur nos ennemis, sur le diable, sur le péché, sur la mort, il ne vaut que pour celles et ceux qui veulent marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia, amen. Et je voudrais peut-être rappeler à un frère et une sœur, eh bien, si besoin était, de recentrer sa vie eh bien, sur la personne de Christ, de revenir à une conduite et à une marche qui veut être à la gloire de Dieu. Dieu sera avec toi. Si vous êtes avec lui, il sera avec vous. Alléluia. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Alléluia, nous dit le Seigneur. Et nous voyons eh bien, que finalement, cette leçon va porter ses fruits parce qu'en ce qui concerne les disciples, l'apôtre Pierre, eh bien, ils vont marcher eh bien, dans les voies du Seigneur et remporter la course. Alléluia. Amen. On a besoin de connaître Jésus. Amen. Et de le reconnaître. Amen. Alors, je voudrais peut-être prier maintenant pour des bien-aimés qui font face à une tempête, à une épreuve. N'aie pas peur, mais apprends dans cette épreuve à connaître Jésus et que ta foi, elle dépende de lui seul. Alléluia. On prie ensemble, Seigneur. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Seigneur, pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, nous te louons parce que, Seigneur, tu nous connais. Seigneur, et tu nous as fait. Tu nous connais parfaitement. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Cependant, Seigneur, nous aussi, nous avons besoin de te connaître. Seigneur, nous avons besoin d'aimer ce que tu aimes. Seigneur, d'avoir cette relation, cette communion avec toi. D'être, Seigneur, renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Seigneur, donne-nous, Seigneur, par ton Saint-Esprit, Seigneur, la connaissance, Seigneur, la révélation, l'intelligence des choses d'en haut. Seigneur, alors nous ne tremblerons pas devant la tempête, parce que nous saurons dire, mais je sais en qui je crois. Et je sais qu'il est puissant pour me garder, pour me tenir debout, pour garder ce qu'il a déposé dans mon cœur jusqu'à la fin. Alléluia. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alléluia. Parce que mon Dieu a un projet pour moi, pour ma vie. Alléluia. Des projets de bonheur, afin de me donner de l'espérance. Seigneur, je veux te rendre grâce. Et je te prie, Seigneur, afin que dans cette matinée, tu relèves la tête, le cœur. Seigneur, la foi d'un bien-aimé, dans le nom de Jésus. Alléluia. Quelques secondes sous le regard du Seigneur. Et peut-être dire à quelqu'un, ne t'arrête pas, ne t'arrête pas. Ne cherche pas à tout comprendre de l'épreuve, peut-être même de la maladie. Mais dans cette épreuve, cherche à tout comprendre, à tout connaître de Jésus, de son amour pour toi, de sa fidélité. Et chaque jour, tu avanceras et tu atteindras le but. Alléluia, parce que finalement, ils ont atteint le port, ils ont atteint l'autre rive. Les disciples du Seigneur. Quelques secondes sous le regard de Jésus, là, vous lui dites, Seigneur, je me confie en toi, je prends courage en toi. Quelques secondes. Gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur, nous te bénissons. Amen. Amen.